ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Oulaïsser, je ne suis pas le pasteur de l'église d'ici. Je suis l'un des pasteurs de nos églises de l'AEI et j'ai eu toujours le plaisir d'être ici pour communier avec vous par rapport aussi à mon amitié avec votre pasteur, avec Jean-Claude, qui est mon collègue mais aussi un ami. Et ce matin, j'ai cette charge de partager la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais ce matin, c'est vrai que je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais partager à l'église de Vigneux. Le premier dimanche d'août, en plein été, n'est-ce pas? Où apparemment on est tous au repos, nos esprits, nos âmes, nos corps. Et quelquefois on a le sentiment que peut-être le message qu'on doit livrer doit être un message plutôt, un message léger, hein, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui décide de ce qu'on peut partager avec ce peuple, parce que c'est lui qui connaît le cœur des uns et des autres. Alors le test que je vais partager avec vous, c'est un test lourd, n'est-ce pas? Parce que c'est un test dans l'Ancien Testament et particulièrement dans, un livre assez lourd. Donc c'est les Lamentations de Jérémie. Hein? Le thème même le dit, lamentation. On est en été, on va se lamenter. Bah, c'est comme ça. C'est le Seigneur qui décide de ce qu'il veut nous dire, n'est-ce pas? C'est vrai que même si on est en été, nos vies ne s'arrêtent pas. Nos joies ne s'arrêtent pas, nos peines. Quelquefois, quelques difficultés, parfois petites ou grandes. L'été, certes, c'est une étape, c'est une saison, c'est une étape dans notre train-train quotidien, mais pour autant, notre vie reste quelque peu compliquée, en tout cas pour quelques-uns. Et qu'on peut arriver, alors que tout le monde se réjouit, de dire... J'aimerais bien me réjouir. J'aimerais bien être en vacances. En vacances, pas simplement dans mon activité, mais dans ma tête. Et on n'y arrive pas parce qu'on est chargé. Et quelquefois, on peut avoir cette sorte de désespérance. Et pourtant, tout le monde continue sa course. Tout le monde, c'est l'été, dans les magasins, dans les supermarchés, à la rue. On voit les voitures, les coffres qui s'ouvrent avec des valises et tout. Et même quand vous allez à la laverie publique du coin, moi je suis parti à la laverie avec ma valise. Ah, vous partez en été? Je dis non, je viens laver mon linge. Parce qu'on pense que tout le monde part. Et malgré cette ambiance, on peut porter des choses lourdes. Et c'est vrai que pour moi aussi, je suis un peu dans cette étape. Et je pense que Dieu me met à cœur de partager ce texte avec l'église de Vigneux. C'est lui qui sait pourquoi. Alors, c'est le livre des Lamentations. On dit que c'est un chant funèbre, hein? C'est un chant de deuil. Hein? Quand Jérémie, poussé par l'Esprit de Dieu, laisse ce livre, c'est un chant de deuil. Hein? Si vous le lisez, en tout cas, les débuts des chapitres ne sont pas des chapitres joyeux. Hein? Ils se lamentent, comme on dit. C'est que la stabilité du peuple d'Israël, cette stabilité qu'ils avaient vécue pendant 4 siècles, malgré les événements de guerre qui étaient liés à cette époque de l'histoire de l'humanité aussi, Jérusalem, donc la ville, la capitale, avait été préservée. Elle avait été stabilisée. Et ça avait amené à penser qu'aucun ennemi ne pouvait jamais humilier Jérusalem. D'autant plus que Jérusalem était, dans la conception théologique et spirituelle, la ville où Dieu résidait à cause du temple glorieux. Mais ils avaient oublié que Dieu avait dit à Salomon quelque chose. Dieu avait dit à Salomon, et on peut le retrouver dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 11 à 22 que je vais lire. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours les yeux là, mes yeux, mon cœur. Et le texte continue jusqu'au verset 19. Et au verset 19, il est dit, « Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité son pays, ce pays et cette maison ? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, Dieu de leur père, qui les a sortis du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Et le peuple avait oublié cela. Il se souvenait de toute la première partie de l'exaucement de ce texte que Dieu a dit à Salomon, mais ils avaient oublié à partir du verset 20. Que Dieu a dit quand même, il y a une condition, parce que c'est un Dieu juste. Si vous vous détournez. Et il se trouve qu'à cette période, le peuple s'était détourné. Et de la loi de Dieu, et des bonnes coutumes, et des bonnes choses, parce que voilà, il y avait stabilité, il y avait une paix. Ils avaient été préservés. Ils n'avaient pas oublié leur tradition, mais ils avaient oublié de vivre la parole de Dieu. Et parfois, je crois qu'on est dans cette... Je crois que parfois, on peut être très attaché à nos traditions, même si on ne l'appelle pas comme ça, parce que ça fait partie désormais de nos vies, mais quand même un peu éloigné de ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on vive. Et ça peut venir de façon, il me semble, ça peut venir de façon insidieuse. On ne s'assoit pas pour dire on ne va plus faire ce que Dieu dit, mais on s'installe dans une sorte de confort, de tradition, on fait des choses pour les faire, mais on ne vit plus ce que Dieu attend. Et je crois que le peuple s'était éloigné en ce moment-là. Et c'est pour cela que Jérémie, dans ce livre de Jérémie, au chapitre 2, verset 14, il dit, « Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. » Donc il dit, dans cette période, les prophètes, ceux qui étaient chargés de parler de ma part, auraient dû vous rappeler la deuxième partie de ce test de chronique que j'ai dit à ce moment. Ils auraient dû vous rappeler que la seule condition qui me permettent d'être encore présent dans cette maison de gloire, c'est que vous restiez attachés à mes commandements et à mes ordonnances, que vous les viviez, que vous les pratiquiez. Ils ne vous ont pas fait ça, ils vous ont donné des fausses visions. Et que parfois, là j'ouvre une grande parenthèse, et que parfois dans notre monde, et aujourd'hui dans notre monde évangélique, et sur Internet, on peut avoir tellement de bons prophètes, de bons messagers, de bons hommes de Dieu, éloquents, puissants. Mais est-ce qu'au fond, ils nous disent la parole ? Et que quelquefois, on est dans des lieux, et je ne critique personne, je fais un constat, on est dans des lieux où il y a des manifestations dites extraordinaires, où on dit, oh là, j'étais là, Dieu a été puissamment manifesté. On sort de là enthousiasmé, encouragé. Genre, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et puis, les jours de la semaine, on est pareil comme avant. Et moi, je m'étonne toujours, je dis, mais t'as vu ça dimanche dernier, mais ta vie n'a pas changé. Et c'est étonnant quand même. Donc, ça veut dire que c'était un feu de paille et que ce n'est pas profond. Et que c'était de la manifestation pour de la manifestation. Si Dieu nous touche, frères et sœurs, peu importe la façon dont il nous touche, ça va se voir dans nos vies. Et nous-mêmes, nous n'allons pas rester tranquilles. Verset 17, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Toujours Jérémie chapitre 2. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. un constat amer. Littéralement, tout ce qu'il a dit à Salomon s'est accompli. Si vous donnez de moi, je ferai de vous la raillerie et la moquerie de vos ennemis. Et ce constat amer de lamentation nous montre que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit toujours. Si c'est une bénédiction, il va l'accomplir. Mais si c'est un jugement aussi, ce jugement va s'abattre. Parce que sa parole est oui et amen. C'est pour ça qu'il est un père aimant, mais en même temps qu'il est un Dieu qu'on doit craindre. Et nous, en tant que chrétiens du 21e siècle, on a poussé le balancier vers le fait qu'il est un Dieu aimant. On a dit, on aime toujours nous présenter Dieu comme le Dieu plein de grâce, plein d'amour. Pourquoi on aime ça? Parce qu'on sait que nous-mêmes, on est tellement faillibles. On va tellement faire des choses qui ne lui plaisent pas. On a toujours besoin, comme des petits enfants qui ont besoin toujours de... Vous savez, à 3 ans, les petits garçons ou les petites filles, hein, si vous avez ici, je pense, je vois l'assemblée, je pense que plusieurs d'entre vous ont cette expérience. Les petits enfants, à partir de 3 ans jusqu'à 5 ans, ils sont très, très intelligents. En même temps qu'ils viennent de faire une bêtise, dans la seconde qu'ils vont suivre, ils vont vous faire un câlin. Parce qu'ils savent qu'entre les 2 secondes, quelque chose peut se passer. Donc, pour freiner la réaction des parents, tout de suite, ils vont vous faire un câlin. Pour arrêter une éventuelle sanction. Notre vie nous parle et Dieu sait. Et parfois on est comme ça avec le Seigneur. On sait ce qu'on vient de faire ou ce qu'on est en train de vivre n'est pas tout à fait conforme. Mais en même temps, on le câline. Je t'aime Seigneur, mon Dieu. Tu dis que tes promesses sont oui, amen. Je ne serai pas à la queue mais à la tête. Mais en temps, est-ce que tu as rempli toutes les conditions pour que cette promesse s'accomplisse? Peut-être pas. Notre Dieu est un Dieu juste. Sa parole est une parole d'amour. Certes, mais c'est un Dieu juste. Ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur. Au contraire, c'est un père aimant qui est toujours en train de nous ramasser, nous restaurer, être derrière nous comme un père qui ne se fatigue pas de nos bêtises. On en a un bon paquet. Et moi le premier. Heureusement qu'on a un Dieu qui n'est pas un tyran, qui est un Dieu qui est père, donc qui est un parent. Hein? La notion de père ici, c'est la notion de parent. Dieu est un parent qui a les deux sensibilités, et de la paix, et du père et de la mère. Donc qui à la fois peut avoir cette voix d'autorité à la maison. Hein? Vous savez, ça arrive quelquefois. Hein? Les enfants, ils bougent dans tous les sens. Maman parle une, deux fois, ça continue de bouger. Quand papa sort, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Silence radio. Et Dieu aussi est comme ça. Donc, il a ces deux tendances où il peut dire, qu'est-ce qui se passe? Et on s'arrête. Et en même temps, il a cette tendresse de mère qui, devant une bêtise, n'est pas toujours en train de punir, en train de dire, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Viens à toi. Et qui câline, pas pour encourager la bêtise, mais pour dire, tu vois, je t'aime quand même. Essaie de faire mieux. Essaie de faire mieux. Essaie de faire mieux. Car tu peux le faire. Et en plus, je t'ai donné les capacités pour le faire. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Versets 20 à 22. Amer constat des désolations. Voici Éternel, regarde. Qui tu as ainsi traité? Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. La colère de Dieu est terrible quand elle s'abat, frères et sœurs. Et c'est pour cela que je ne sais pas pour vous, mais là, c'est l'été, donc c'est multiplié par, je veux dire, c'est multiplié par 1000. Quand je suis à Paris, quand je suis dans les villes de nos grandes villes, de nos petites villes, je vois le monde qui sort, qui marche, mais sans Dieu. Mais sans Dieu. Mais chacun est en paix. Chacun vit sa vie, mais sans Dieu. Alors que nous savons que la peine est lourde. Le texte dit, Jean 3,16, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il est la vie éternelle. Mais Jean 3,16 n'arrête pas là. Il y a Jean 3,17, il y a Jean 3,18 qui dit, car tous ceux qui l'ont régné ont déjà attiré la condamnation sur eux. La mort éternelle. Et tout ce monde sans Dieu. Et quelquefois, je me sens tout petit en tant que pasteur. Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas, donne-moi un don extraordinaire, donne-moi de faire des choses pour que les gens entendent, pour que les gens soient impactés par ce qu'on fait. Mais Dieu me rappelle toujours le texte de l'évangile de Luc. dans l'évangile de Luc, on a cet épisode où il y a le riche et le pauvre Lazare. On dit qu'il y avait un riche qui avait tout et qui faisait sa vie. Et il y avait un pauvre qui n'avait presque rien, mais qui aimait Dieu. Et qui mendiait même à la table du riche. Et le texte dit, c'est Jésus qui parle, donc c'est une parabole. Il dit, le riche est mort, on l'a enterré, et le pauvre est mort, il a été conduit dans le sein d'Abraham. Et le riche, de l'autre côté, donc dans le séjour des morts, qui est dans ce lieu de souffrance éternelle, alors qu'il est en train de souffrir, parce que voilà, c'est un coin terrible. On dit, il lève les yeux, enfin Jésus dit, il lève les yeux, et il voit le pauvre Lazare avec Abraham. Et dit, Père Abraham, dit à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau et de me céder qu'une goutte d'eau, parce que je souffre terriblement ici. Et Abraham a cette parole. Il dit, même si on le voulait, on ne peut pas traverser du sein là où les saints sont et du séjour des morts, parce qu'il y a un abîme sans fin. C'est-à-dire, entre l'enfer et le paradis, une fois qu'on y est, on ne peut plus changer de position. Ici encore, tu peux naître dans une famille pauvre et te battre dans la vie, réussir. Mais une fois qu'on est rentré avec la condition de pécheur au ciel, on ne peut pas la changer. Une fois qu'on est rentré dans le ciel avec la position d'enfant de Dieu, on ne peut pas la changer. Lazare était rentré comme un enfant de Dieu. Et le riche, ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il est rentré en enfer, c'est parce qu'il n'aimait pas Dieu. Parce qu'il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Et de là, il se rappelle qu'il a ses frères qui sont aussi dans cette tradition, on va dire, juive de l'époque, mais qui ne font pas ce que Dieu veut. Et il dit, bon, moi je sais que mon sort, déjà c'est fini, je suis en enfer, là tu m'as tout dit, c'est terrible pour moi, mais pour mes frères, ils sont encore vivants, je peux encore les sauver. S'il te plaît, fais revenir Lazare à la vie et qu'il aille dire à mes frères de ne pas faire comme j'ai fait. Et Abraham a cette parole qui est terrible. Il dit, même si les morts ressuscitent, tes frères ne croiraient pas. Parce qu'ils ont quoi? Il dit, ils ont les prophètes et la loi. C'est-à-dire, ce n'est pas les miracles qui sauvent, c'est la parole de Dieu. Il dit, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne l'écoutent pas, même si un mort ressuscitait, ce n'est pas ça qui va changer leur vie. C'est la parole qui change la vie. La colère de Dieu est terrible. Et c'est ce que Jérémie dit dans ce 2 versets 20 à 22. La colère de Dieu, quand elle s'abat totalement et terriblement. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein, vous savez, il y a ce grand texte où Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que tu choisisses la vie afin que tu vives éternellement et non pas la mort. Chapitre 3, verset 1 et verset 8, toujours de Lamentation de Jérémie. Au chapitre 1, il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Donc il dit, j'avais entendu parler de la colère de Dieu, mais mon époque m'a fait voir que Dieu, quand il se déchaîne dans sa colère, c'est terrible. Mieux vaut qu'il ne se déchaîne pas. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Au verset 8 du chapitre 3, il dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. L'endurcissement, l'incrédulité. Une fois qu'on atteint ce stade, Dieu reste insensible. Autant il peut être un Dieu d'amour, autant il a des limites. Les limites, c'est lui qui les fixe, pas nous. Mais il y a un texte qui dit, Dieu parle une, il avertit une fois, deux fois, et la troisième fois, il agit. Donc, si tu es dans une situation où tu as entendu les avertissements de Dieu, essaie de les entendre et de te ressaisir. Essaie de les entendre et de te ressaisir. Pour ne pas être dans le constat de Jérémie, pour ne pas dire j'ai beau crier, j'ai beau implorer le secours, Dieu ne se laisse pas accéder à ma prière. Verset 17 du chapitre 3, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Jérémie ne voyait plus, alors qu'il était messager de Dieu, prophète de Dieu, il regarde la condition de son peuple, il regarde, les choses ne vont pas en s'améliorant parce que le peuple n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que le peuple est resté fermé. Et il dit, il n'y a plus d'espoir. Et parfois, ça nous arrive, n'est-ce pas? Et parfois, ça nous arrive, même si on n'a pas péché. On peut être dans une épreuve, on se dit, mais je ne vois pas le bout du tunnel. Seigneur, tu dis que tu ne permets pas que l'épreuve soit au-delà de mes forces, mais là, j'ai l'impression que c'est au-delà de mes forces. Je ne vois pas quand ça peut s'achever. Ça, c'est quand on n'a pas péché. Mais il faut se rassurer que ce n'est pas un péché ou une désobéissance à Dieu qui nous conduit dans une situation. Une fois qu'on s'est rassuré de ça, alors on appelle ça une épreuve. Si on s'est rassuré de ça, ce n'est pas une épreuve, c'est une conséquence de notre désobéissance. Et si c'est une conséquence de notre désobéissance, il n'y a pas 10 000 remèdes, il n'y a qu'un seul, se repentir, demander pardon, revenir de tout son cœur à Dieu et dire désormais, j'ai mal agi, là j'ai pas bien fait, je remets tout en tes mains, je prends même le risque de me sortir de cette situation, même si je ne sais pas comment tu vas la régler. Même si je ne sais pas comment tu vas la régler, mais je te fais confiance. Dans le pire des malheurs, le prophète reste convaincu que malgré tout, il n'y a que Dieu qui peut le renouveler. Dans le pire des malheurs, quand on lit tous ces textes, ces textes sont lourds, hein, jusqu'au verset 26. Hein. Il n'y a qu'au verset 19 qu'on commence à voir, jusqu'au verset 18, c'est très difficile. Il n'y a qu'au verset 19. Le prophète dit, bon, la situation n'a pas changé. L'épreuve, elle est encore là. Cet état difficile lié à notre désobéissance est encore là. Mais, il commence à dire quelque chose. Dans le pire des malheurs, le prophète reste convaincu que malgré tout, il n'y a que Dieu qui peut le renouveler. Et moi, en lisant ce texte, je n'avais pas encore vu cet éclairage, ce lien entre le verset 18 et la suite des versets 21 jusqu'au suivant. Et je constate que le prophète, il est lucide. Au verset 18, il dit, « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et puis au verset 21, il dit, Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Pour qui reste en lui? Pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Notre foi n'est pas une foi bête. C'est pas une foi genre, on a la foi, tout va bien. Non, c'est une foi raisonnable. Les situations peuvent être difficiles, clairement. Soit parce qu'on a péché, soit parce que c'est une épreuve. Elles sont difficiles dans les deux cas. Mais Jérémie a cette parole poussée par l'Esprit de Dieu qui doit être une parole à nous. Voilà ce que je me repasse dans mon cœur. Devant cette situation, on a chanté ce chant tout à l'heure. N'est-ce pas? Contre les bienfaits de Dieu. Comment le chant commence? Quand le vol de la tempête, quand la tempête se lève et que le danger est là, que l'épreuve est là et que le malheur semble abattre sur toi, et dit, ne reste pas sur ce moment-là. Compte les bienfaits de Dieu. Regarde tout ce qu'il a déjà fait. Compte-les. Et tu verras. Que tu verras que le nombre en est grand. Et quand on dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire, ce même Dieu, qui quand tu as péché dans le passé, t'a pardonné, t'a restauré, il est encore capable, si tu lui demandes pardon, de te restaurer, de te relever. Ce même Dieu, même quand tu n'avais pas péché, mais tu avais eu une épreuve difficile dans ta vie, ce même Dieu qui t'a sorti de cette épreuve, bah, il est le même aujourd'hui. Il est encore capable de te sortir de cette épreuve. Mais il faut que tu te souviennes comment la fois d'avant tu lui avais fait confiance. Comment est-ce que tu lui avais fait confiance la fois d'avant? la confiance avec Dieu, parfois, c'est difficile, hein, parce que parfois, il n'y a pas d'élément sur lequel on peut s'appuyer. Bah, fais-moi confiance. Bah, oui, je veux bien, mais si au moins j'avais quelque chose qui pouvait me dire, là, j'ai une lueur sur laquelle je peux dire, oui, je peux avoir confiance en toi. Parfois, pas. Mais il dit, fais-moi confiance. Et ça me rappelle un autre épisode, l'épisode d'Abraham, justement. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Lève-toi, laisse tout. Prends ta femme et tes serviteurs, va vers un pays que je te montrerai. On dit, Abraham partit sans savoir où il allait. Mais sur la base de la parole de Dieu, la confiance qu'il avait en Dieu, il a dit, c'est le Dieu de toute éternité. Il sait tout. Il connaît tout. Donc s'il me dit de partir, qu'est-ce que j'ai à traîner? Je lui fais confiance. N'est-ce pas? C'est lui qui a créé ceux qui ont inventé la boussole. Donc, il sait mieux s'orienter que moi-même. Donc, assurément, je ne vais pas me perdre. Il faut juste que je lui fasse confiance et que j'écoute sa parole. Vous savez, la confiance en Dieu, ce n'est pas les sentiments qui me traversent sur le moment. Ce n'est pas les petits rêves ou les petits songes que je fais. C'est que dit la parole par rapport à la situation que tu traverses. Quelles sont les promesses qui sont attachées à elle? C'est pour ça que dans l'épreuve, notre réflexe est de revenir dans la parole. Rechercher la parole de Dieu, les textes qui parlent de ces épreuves-là et comment Dieu a conduit son peuple lorsqu'il traversait ces épreuves-là. Et c'est sur ces textes-là que nous appuyons notre foi. Car le Seigneur, verset 31, ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu n'est pas un masochiste. Ce n'est pas un sadochiste. Il ne prend pas plaisir quand ses enfants souffrent. Jamais. Au contraire, la Bible nous montre, et c'est des anthropomorphismes, c'est-à-dire qu'on prend des aspects de notre vie humaine pour parler de Dieu. Dieu est toujours touché, affligé, déchiré. Même quand on a désobéi et qu'on en est malheur, il est affligé. Il est concerné, il est dévasté par chacune de nos vies. Parce que le texte lui dit que Dieu connaît chaque brin de cheveux qui est sur ta tête, chaque brin. Il connaît chacun de nous par son propre nom. Il connaît chacun de nous par son propre nom. Et Jésus, fils de Dieu, parce qu'il a souffert, en épître, les épîtres aux Hébreux dit, parce qu'il a souffert, lorsque nous souffrons, il sait ce que c'est que la souffrance. Il souffre avec nous. Il nous faut faire confiance à Dieu. Et je vous parle, tout en vous parlant, je me parle à moi-même, dans une épreuve que je traverse aussi. Quelquefois, et c'est ce que le prophète dit, versets 39 et 40, il dit, parfois, il faut arrêter nos raisonnements qui sont des raisonnements type cartésien, type philosophique de notre monde séculier, hein, légitimement parfois. Mais même si Dieu n'est pas fâché, hein, quand on lui dit ça, mais c'est nous qui devons avoir une certaine sagesse. Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Comment tu as pu laisser faire telle chose, Seigneur? Dieu, il aime. De toutes les façons, on est ses enfants. Donc, ces expressions-là, dans la douleur, si on veut les dire, disons-les à Dieu. Et soyons sages. Ne les disons pas trop souvent, ni trop régulièrement. Parce que ça veut dire quoi, cette expression? Ça veut dire, moi, je ne méritais pas. Peut-être ça devait tomber sur l'autre. Pourquoi ça tombe sur moi? C'est ça que ça veut dire. Pourquoi moi, Seigneur? J'en connais un qui mérite ça. Globalement, enfin, insidieusement, c'est ce que ça veut dire. Si je dis pourquoi moi, ça veut dire peut-être ça devait être sur l'autre. Une fois, on priait dans un pays pour une catastrophe naturelle, et puis il y a un frère qui a prié en disant, Seigneur, fasse que cette catastrophe passe sur mon pays. Et moi, il prie comme ça, et moi, dans ma tête, j'ai dit, mais si ça passe sur notre pays, ça va dans quel pays? Bah oui, parce que si je dis que cette catastrophe naturelle passe sur la France, donc que la France soit épargnée, mais elle va aller où? Quelquefois, on prie avec la ferveur, mais peut-être qu'on ne comprend pas la teneur de ce qu'on dit. Et c'est un peu ça le pourquoi moi. Le pourquoi moi, c'est peut-être c'est l'autre qui le mérite pas moi. Donc Seigneur, tu t'es un peu trompé dans ton casting. Mais non, Dieu sait tout. Si c'est une conséquence de ton péché, bah, il n'y a pas de pourquoi moi. Tu es l'auteur de ce que tu traverses. Je suis l'auteur de ce que je traverse. J'ai simplement demandé pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. J'aimerais que tu me sortes de là, s'il te plaît. au nom de Jésus. Il n'y a que ça à faire avec simplicité et humilité. Et se sortir soi-même de la situation et laisser Dieu gérer la suite. Quelquefois, on dit, Seigneur, je te demande pardon, mais on reste encore dans la situation. Mais comment il va agir? Là, je ne critique pas. Je dis juste ce que la parole de Dieu nous dit. Entendons et soyons sages. Et puis, verset 56-58, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Quelle confiance en Dieu. Un Dieu qui demeure toujours Dieu, même si le malheur s'abat sur l'incroyant avec injustice. C'est la propre vie du prophète et non la vie du peuple. Parce que contrairement au peuple qui n'a pas écouté les avertissements du Seigneur et qui subit les conséquences de son péché, le prophète, lui, il est juste aux yeux du Seigneur. Et on voit que Jérémie, alors qu'il n'a pas péché, il s'est identifié à son peuple. Il souffle avec eux. C'est le sens de la Sainte Cène. C'est le sens du chant que nous avons chanté. Nous sommes un. Si un frère, une sœur traverse un moment difficile, que ce soit même les conséquences d'un péché, on n'est pas là pour le culpabiliser, pour le rejeter. On est là pour lui dire, écoute, t'as qu'à demander pardon à Dieu. On est tous autour de toi pour que tu te lèves. On prie avec toi. Et s'il y a des solutions à trouver, on va ensemble chercher des solutions pour la gloire de Dieu. Même si on n'est pas concerné. Vous savez, intercéder, ce n'est pas juste lever des paroles en l'air pour quelqu'un. C'est s'identifier à la situation de la personne. C'est ça, intercéder. On s'identifie à la situation de la personne. Okay. Et puis terminons. Chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Là, je suis dans 2 Timothée, pardon. 2 Timothée 4, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Qu'elle viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Le prophète Jérémie, devant le malheur, devant l'épreuve profonde que traverse son peuple, son pays et lui-même, Jérémie a reconnu les causes spirituelles et morales de tous ses malheurs et de son peuple. Il a confessé les péchés de sa génération. Il a reconnu que Dieu n'est pas coupable. Au contraire, Dieu est juste. Et si ce malheur est la conséquence de la désobéissance, alors Dieu a raison dans ses jugements. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire appel à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, en s'appuyant sur la miséricorde de Dieu qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Et c'est ce que Jérémie dit au chapitre 5, donc Lamentations chapitre 5, verset 2. Fais-nous revenir à toi, et nous reviendrons. Je prie que si tu es dans une situation particulière, que tu puisses faire de ce verset ton verset. Seigneur, fais-moi revenir à toi et je reviendrai. Et je rappelle ce verset 21, verset 26 du chapitre 3 de Jérémie. Voici que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le recherche, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Et je peux vous assurer que je suis dans cette phase où j'ai dit, ok, j'attends en silence ton secours, Seigneur. Que le Seigneur nous fortifie, frères et sœurs. Ce message, c'est ton message d'encouragement. Pour que tu sortes, si tu as désobéi à Dieu, sors de ta désobéissance. Pour que tu aies confiance, si tu as une épreuve qui n'est pas liée à un péché, mais que tu traverses une épreuve, fais confiance en ton Dieu. Il est capable de t'en sortir. Et si tu n'es ni dans ces deux situations, pour toi ce matin, c'est que ce Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit toujours. C'est la leçon que tu dois retenir. Ce Dieu, s'il fait une promesse, elle s'accomplit. S'il dit un jugement, il s'accomplit aussi. Donc autant être du côté des promesses de Dieu plutôt que du côté de ses jugements. Prions Dieu. Béni sois-tu, notre Dieu. C'est vrai que les situations de nos vies sont parfois traversées par la désobéissance ou par des épreuves. Dans l'une ou dans l'autre des situations, je veux te rappeler ton Église que toi qui m'as donné cette opportunité de parler de ta part, mes frères, mes sœurs. Alors, Saint-Esprit, accompagne chacun ce matin. Que chacun puisse en tirer sa propre part. Et de plus, comme tu le dis, Seigneur Jésus, que nous soyons des auditeurs qui n'oublient pas, mais de ceux qui entendent pour agir selon ta volonté. Nous laisser guider par ton Saint-Esprit. Pour ceux ou celles qui ne sont pas dans ces deux situations, qu'elles aient pu comprendre ce matin que tu es un Dieu fidèle. Tu es toi-même. Ta parole s'accomplit toujours, peu importe le doute qui peut nous envahir. Et que, ultimement, ce que nous devons faire, c'est toujours, même quand nous n'avons pas de preuves tangibles, d'attendre dans le silence ton secours, ton intervention, ton action, ta manifestation. Béni sois-tu, en Jésus. Amen.